Barbara Gay, l'Artisan Company, le LUD. Je mène un projet agriculturel sur le territoire, donc depuis 3 ans en partenariat avec la ferme du Frêne au LUD et au-delà avec d'autres fermes, dont une sur la Luché, le nom d'une ferme. Donc je fais venir des spectacles et je les mélange avec des acteurs agricoles, donc c'est souvent marché de producteurs. Plus, et des artistes. La plupart sont en résidence à la ferme avant les événements et beaucoup sont logés chez l'habitant.
Et en termes d'impact, si les coupes budgétaires annoncées, se confirment?
Et ben moi, justement, cette année, j'arrivais au niveau où je pouvais prétendre à un soutien de la région et donc ce que je trouve, enfin, qui m'aurait permis de créer un emploi pour pérenniser cette démarche. Ça aurait été intéressant dans le sens où ben, ça aurait valorisé mon engagement bénévole de plusieurs années, ça aurait amené une compétence de plus dans la compagnie. Et comme je l'exprimais plus tôt dans la réunion, ça aurait aussi permis d'être un peu au-delà des petites disputes politiciennes qui du coup sont à l'œuvre sur le territoire et parfois empêchent l'intérêt général d'avoir lieu. Donc une subvention de la région, c'était aussi la garantie que, quelle que soit l'équipe municipale, quels que soient les affrontements politiques sur le territoire, ben, il y avait ce soutien qui garantissait la pérennité de l'événement.
Donc, les perspectives pour vous.
Ben, y a d'autres impacts hein, avec des partenaires. Mais la perspective, c'est que le désir bénévole voilà, de s'investir toujours plus sur des projets qui grossissent, diminue et que au lieu d'avoir un projet qui s'étend dans les années à venir, soit plutôt un projet qui se réduise au détriment de la vie du territoire, en fait.
Isabelle Toulis, habitante de Luché-Pringé, adhérente à la compagnie Volière en velours. Et je fais partie aussi d'une association qui organise un festival des arts une fois par an.
Votre présence à cette réunion.
Soutien vis-à-vis la compagnie Volière en velours et puis une crainte aussi de ne plus avoir accès à la culture. Enfin, voilà.
Une crainte de ne plus avoir accès à la culture.
Oui, dans la ruralité, au niveau de la ruralité.
Parce que pour vous, les enjeux sont de cet ordre-là.
Aussi, oui.
Alors, Séverine Mésange, bénévole à la bibliothèque de Luché-Pringé et membre d'Atelier Carmonde de La Flèche. Alors, je suis venue à cette conférence car je trouve scandaleux la décision de la coupe budgétaire de Mme Morançais. Et comme Mme Toulis, c'est un soutien par rapport à l'accès à la culture, surtout pour les plus démunis. Car notre devise à Atelier Carmonde, c'est la culture, c'est un droit fondamental. Et il faut toujours le pérenniser. Et ce n'est pas une question de financement qui doit l'empêcher.
Emma Verbeek, bonjour.
Bonjour.
La volière de velours.
La volière de velours. Donc, la volière de velours, nous, on est implanté maintenant depuis 4 ans à Luché-Pringé. On opère sur le territoire en organisant un festival tous les ans dans notre ferme. Et donc, bah, avec les annonces là, qui se sont faites, on a peur que ce soit un projet qui s'arrête. Et bah, on va se battre parce que pour nous, c'est un projet qui est hyper important, qu'on a construit avec les habitants et pour les habitants et pour faire vivre la ruralité. Même si on est artiste d'autre part sur d'autres projets ailleurs, on a fait le choix de venir vivre à Luché pour faire vivre notre campagne.
Il y a votre alter ego qui est à vos côtés, Antonin?
Antonin Baille, oui.
Oui.
Du coup, moi je suis dans la volière de velours aussi. Et on commence à être touché aussi sur un autre endroit. C'est pas directement, mais c'est en fait tous nos partenaires à qui on vend nos spectacles ou avec qui on travaille, qui ont des coupes budgétaires. Et là, par exemple, avec le Festival des Affranchis à La Flèche, organisé par le Carrois, ils ont une baisse de subvention qui fait qu'on devait accueillir un spectacle avec une équipe de Mayotte cet été, enfin l'été 2025. Et ça ne pourra pas avoir lieu à cause de ces coupes budgétaires-là. En gros, les Affranchis suppriment des spectacles de leur festival. Donc ça s'en va.
Et aussi, on s'inquiète juste de perdre notre métier, en fait. Et qu'on pense déjà peut-être faire une reconversion ou devoir faire un autre travail pour juste gagner de l'argent.
Vous en êtes déjà là ?
Oui, on prévoit les choses parce que la marge de manœuvre n'est pas énorme. Donc, nous, on n'est pas bénévole de notre association. Il faut qu'on travaille. Et en plus, là, on est à un endroit où on voulait se développer. Et comme le disait Barbara, tout à l'heure, on voulait faire une demande pour avoir un emploi et avoir une administratrice au sein de la compagnie, justement pour nous aider à faire grandir la compagnie, pouvoir proposer encore plus de projets, de faire des demandes de subventions. Et là, potentiellement, ça ne sera pas possible.
Antonin, je n'ose pas m'avancer vers une édition 2025 du festival que vous organisez, puisque vous me faites déjà peur de dire que vous vous questionnez par rapport à même le fait de pouvoir travailler sur le territoire et de chercher à vous reconvertir.
Eh bien, c'est toujours compatible. Nous, on a très envie de continuer à rayonner sur le territoire et le festival, on va l'organiser quoi qu'il arrive. La question, c'est à quel point est-ce qu'on pourra avoir des spectacles dans ce festival-là, ou peut-être ce sera plus des amateurs ou on va passer sur quelque chose de bénévole avec seulement les ressources de la restauration et du bar qu'on organise aussi pour dégager de l'argent pour financer le festival lui-même.
Courage.
Oui.
Voilà.
Oui, je suis Marianne Pelévenet, également bénévole de la bibliothèque de Luché-Pringer. Donc nous, on n'aura pas d'impact strictement financier, puisque la bibliothèque ne reçoit pas d'argent de la région. Par contre, effectivement, ici, on est venu par solidarité avec les... Bon, je pensais qu'il y avait aussi des acteurs de l'agriculture, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. De toute façon, tout spectacle qui a lieu par ici, donc dans la ruralité, donne envie aux familles, aux habitants d'aller à un autre spectacle. Moins il y en a, moins il y a de spectateurs, et plus il y en a, plus on a des gens qui viennent. Or, nous, à la bibliothèque, on fait des animations pendant l'année. On a aussi envie qu'à Luché et autour, il y ait des manifestations culturelles qui se déroulent.
Est-ce que vous avez de l'espoir au vu de tout ce qu'on entend et de ce qu'on lit aussi autour du contexte des coupes budgétaires envisagées par la région ?
Alors, comme nous, très très localement, on n'a pas de retombées de l'argent régional. On ne peut que être très préoccupé par des éventuelles disparitions, là, comme viennent de le dire la volière de velours. C'est la richesse en fait des propositions qu'on aura pas très loin de chez soi qui est préoccupante, qui est mise en cause.
Oui, moi c'est Gilles, je suis de la MJC Ronceret au Mans et je représente ici aussi le collectif qui s'appelle Convergence 72 et qui s'est réuni, qui réunit des acteurs de divers horizons. Secteur culturel, aujourd'hui, c'est un petit peu une thématique parce qu'on est invité par une compagnie culturelle. Mais c'est vrai qu'on sera demain à Marçon sur les questions agricoles, l'agriculture paysanne, et comment est-ce que cette décision met aussi à mal des filières économiques entières en retirant les soutiens. Et puis, c'est une décision extrêmement brusque, rapide, soudaine. Il y a un mois, on n'en parlait pas. On était là, on organisait nos agendas. Et brusquement, une présidente, une personne seule, avec une petite équipe autour d'elle certainement, y compris en méprisant les élus de sa majorité, qui apprennent aussi par la presse, qui apprennent par différents réseaux, qui aura ces subventions qui, au début, ont également été sidérées. Puis maintenant, les éléments de langage font que, ils disent « Ah, quand même, il faudra bien qu'on... » faut bien voter parce qu'il y a des problèmes économiques, il faut le budget de la région, il faut le recentrer, etc. Et ça crée une confusion totale dans les esprits parce qu'effectivement, on ne sait pas demain de quoi sera fait. Par exemple, d'un point de vue économique, pour l'emploi, ici, on a des personnes qui nous disent comment est-ce que leur emploi est supprimé. Les analyses des réseaux régionaux, des filières de la culture, en général, par exemple, pour réseau régional, évoquent plus de 2000 suppressions d'emplois potentiels dans la région. On le retrouve dans trop d'éléments. Quand on parle des missions locales pour l'emploi, alors on était à Mamers, par exemple, sur le thème plutôt avec la directrice de la mission locale pour l'emploi, qui évoque les retombées économiques directes, 2 à 3 emplois supprimés sur le secteur de ma mère, ce sont des conseillers qui accompagnent les jeunes, les missions de soutien aux jeunes décrocheurs, par exemple, les aides éducatives données dans les établissements scolaires comme les lycées, qui permettent de faire des voyages scolaires, des ateliers culturels, des animations. Et en fait, c'est un ensemble de pans de l'économie locale qui est atteinte, qui est durement touchée. Qui dit économie dit emploi, dit retomber vers les commerçants, retomber vers les loueurs, retomber vers les métiers de bouche, retomber chaque fois qu'il y a un festival qui est organisé quelque part, c'est une dynamique pour la vie. Et puis c'est des habitants qui, dans leur territoire, qui sont heureux d'avoir accès à des ateliers artistiques, des pratiques culturelles, et tout ça, on se dit du jour au lendemain, c'est mis en cause directement en nous disant, après tout, ça, c'est pas de l'emploi, c'est pas productif. On nous entend dire qu'il faut mieux donner de l'argent à des maçons parce qu'ils vont construire des bâtiments qu'à des acteurs culturels. Enfin, on entend des arguments complètement d'un autre monde qu'il faut que les élus locaux avec lesquels on parle, membres de cette majorité, eux-mêmes se cachent aujourd'hui, disent qu'après tout, ils ne sont pas responsables, ce n'est pas eux qui ont pris la décision, tournent autour du pot. Et aujourd'hui, est-ce que ces élus peuvent avoir le courage, comme l'a fait par exemple le maire de Juigné,
Daniel Chevalier.
Daniel Chevalier, qui aujourd'hui écrit dans la presse qu'ils sont durement touchés sur la mise en place de réseaux structurants, d'une maison structurante, maison de la santé, structurante, sur laquelle les aides régionales sont importantes. Alors, je terminerai juste pour ne pas être trop long, pour dire que ce que Mme Morancet nous présente comme des compétences partagées, elle oublie juste que c'est la loi qui fait que ces compétences sont partagées. Et en fait, la loi, elle prévoit que les compétences culturelles, par exemple, et les autres, les qualités hommes-femmes, par exemple, je parlais du planning familial tout à l'heure, eh bien, ce sont des compétences qui sont partagées entre l'État et les collectivités locales, ce qui veut dire que la région ne peut pas se soustraire de ces compétences partagées. C'est un pacte passé avec l'État qui se traduit, et voilà, ensemble, on organise le partage de ces compétences, donc on doit agir sur ces compétences-là. Et donc, il y a un déni de démocratie absolument totale, il y a un déni juridique parce que Mme Morancet ne met pas en place la loi, et puis on se demande si aussi il n'y a pas un déni sur le réel budget, le réel état des budgets de la région, puisque par exemple, les radios associatives et d'autres ont appris que finalement, c'était aussi les financements en 2024 qui pourraient être remis en cause. Donc, est-ce que la région est si bonne que ça dans sa gestion? Et quand on sait que l'agence à qui a fait référence, Mme Morancet, qui dit qu'elle a accordé une bonne note, et que la région elle est bien notée par les agences, est-ce que c'est si fiable que ça quand on sait que la dot des agences, elle porte sur l'exercice 2025, les perspectives? Que serait-il si, par exemple, les réductions n'étaient que de 40 millions d'euros au lieu de 100 millions d'euros? Est-ce que l'agence serait accordée? Est-ce que vraiment la région est si bien gérée que ça qu'il faille aujourd'hui faire de telles économies?
On reviendra vers vous, puisque vous avez également évoqué le financement des associations et notamment des préconisations du Conseil économique, social et environnemental. J'aimerais qu'on en reparle. Le temps de nous adresser à Florence Loison.
Vous pouvez un tout petit peu vous décaler, parce que je veux bien m'adresser.
Le temps de nous adresser à Florence Loison qui veut regarder droit dans les yeux ses interlocutrices, interlocuteurs, ça nous va bien. Florence Loison, Zoutano Bazar, on vous a vu lire un message au siège de la région, au Mans, la dernière fois. Et là, vous êtes avec nous ici à Luché-Pringé, c'est-à-dire que cette lutte-là, elle vous concerne au premier chef?
Complètement. Moi, je me présente rapidement. Je suis chorégraphe. Je m'appelle Florence Loison. Ma compagnie, Zoutano Bazar, a 20 ans. Elle s'est créée en 2005. Je suis mancelle d'origine, mais je suis vraiment sartoise à 100%. Et on peut dire que ma compagnie artistique a une dynamique à l'échelle départementale, puisque je suis autant au Mans qu'en milieu rural, dans la communauté de communes Loire-Lucé-Bercé, et notamment le village de Dissé-sous-Courcillon et Montval-sur-Loire. Voilà. Moi, je fais partie de ce qu'on pourrait nommer comme des têtes de réseau, c'est-à-dire que de par mon expérience, de par l'histoire de la compagnie, de par mon implication dans les réseaux associatifs depuis 20 ans, de fait, je suis devenue une équipe référente un peu et qui rassemble d'autres équipes artistiques et qui aide d'autres équipes artistiques à se développer, notamment celles qui arrivent après moi, puisqu'il y a aussi la notion de transmission intergénérationnelle qui est ici au fait, d'entendre des collègues qui demain disent que leurs emplois vont être supprimés ou en tout cas ils ne peuvent pas développer leur dynamique. Moi, ça me déprime, en fait, puisque l'objectif, c'est pas ça, bien au contraire. Moi, très concrètement, je suis impactée directement et indirectement par les baisses de dotation de la région. La compagnie bénéficiait, une des rares compagnies sartoises à bénéficier d'une aide au fonctionnement de la région. Donc, c'est une suppression directe de 7 000 euros de subvention au fonctionnement. Et puis, on pouvait aussi obtenir une aide complémentaire sur une aide à la diffusion. On l'a eu en 2023 et en 2024 pour pouvoir jouer nos spectacles ailleurs en France, qui est autour de 3 000 à 3 500 euros. Donc, je peux dire direct qu'en 2025, sur le budget de la compagnie, c'est 10 000 euros de subvention en moins. Nous, on est une compagnie qui représente autour de 19 salariés, dont 12 intermittents et intermittentes du spectacle, techniciens, administrateurs, artistes, évidemment, donc qui représente autour de 2,24 équivalents temps plein. Donc, l'impact, en fait, de la région, c'est à la fois minoritaire dans notre budget global, parce que vous imaginez bien qu'une subvention de 7 000 euros, ça ne représente pas la majorité des recettes que nous avons pour pouvoir fonctionner, certes, mais c'est très justement dit depuis le début, c'est que le château de cartes, il fonctionne parce qu'il y a un équilibre. Et le château de cartes des compétences et des politiques culturelles en France, il est vraiment partagé, il est vraiment à plusieurs. Et moi, je fais partie de ces équipes artistiques qui défendent ça, c'est-à-dire que de l'échelle locale jusqu'à l'international et inversement, c'est le propos de ma compagnie, on est tous interdépendants et interdépendantes. J'ajouterais que dans les conséquences indirectes, je travaille avec l'ensemble des services publics de notre pays, dans toutes ces échelles-là. Donc, de fait, je travaille avec les associations qui luttent pour l'égalité homme-femme. Je travaille avec les jeunes en situation d'insertion d'emploi. Donc, de fait, qu'ils soient impactés fait que, indirectement, je serai encore plus impactée. Donc, moi, directement, aujourd'hui, là, le conseil d'administration de l'association se réunit pas plus tard que cette semaine pour envisager le scénario le plus sombre qui va arriver, de fait, à partir de 2025 et potentiellement terminer la fermeture de la compagnie d'ici à 2 ans. La réalité, c'est ça. Donc, ça veut dire que directement, ce qui impacte, c'est mon emploi, l'emploi de mes autres collègues. Et puis, le fait qu'en tant que tête de réseau, en tout cas parmi les têtes de réseau, eh ben, derrière moi, sont d'autres compagnies qui aussi attendaient que j'aide, en fait, voilà, qu'on travaille ensemble. J'ai envie de dire que le scénario, il est sombre. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, il va y avoir des coupes drastiques aussi de l'État. Alors, pour l'instant, l'État, il est un peu dans un état, c'est le moins qu'on puisse dire, il se recherche. On a un nouveau Premier ministre qui vient d'arriver. On attend de voir ce que ça va donner. Mais on le sait toutes et tous que les baisses de dotation de l'État vont arriver sur les communes et les communautés de communes. À l'échelle d'une vie rurale, c'est essentiel, c'est majeur. On le sait combien nous sommes en train de nous tenir par les coudes les uns les autres, hein, tous secteurs confondus. Donc, potentiellement, avec les baisses directes de la région, seules isolées, vont s'ajouter d'autres baisses. Et c'est ça, en fait, qui fait que ça fragilise et qui fait que le scénario de ma compagnie, il est potentiellement très sombre d'ici à 2 ou 3 ans, en fait, maximum. C'est-à-dire que c'est l'accumulation, c'est la cascade et l'accumulation de ces mauvaises nouvelles qui vont vraiment fragiliser à la fois des équipes associatives, évidemment, mais aussi des territoires. Puisque, de fait, nous faisons partie des équipes qui intervenons en milieu scolaire. On fait le liant, évidemment, réel avec les habitants, avec toutes les structures d'intervention publique, des services publics de nos communes et de nos intercommunalités. Il est vrai que, moi je l'ai toujours dit aussi, le denier public en ruralité n'a pas la même valeur que le denier public en ville. Certains n'apprécient pas quand je dis ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que quand on investit 1 000 euros ici, c'est pas les 1 000 euros, on n'investirait pas 1 000 euros au Mans, vous voyez ce que je veux dire ? On investirait tout de suite 100 000 euros supplémentaires. La réalité ici, c'est que moi, j'ai toujours entendu parler de la priorité de la ruralité, notamment dans les discours de la majorité régionale. Dans les faits, nous attendons encore, en fait. Ou alors, potentiellement, des choses ont été faites, mais pas suffisamment en profondeur, pas suffisamment massivement pour qu'en fait, une solidité existe, coexiste, qui fasse que si aujourd'hui ou demain la région se retire, ben on ne soit pas dans cet état d'effondrement, puisque là la situation c'est que c'est un état d'effondrement. On commence à voir les résultats, évidemment il nous faut encore du temps, on commence à mesurer et ces caravanes nous permettent justement d'aller à la rencontre de toutes et tous pour mesurer un peu ce qui se passe. Voilà, je veux dire, on va se donner rendez-vous de nouveau en janvier, on va continuer, essayer d'évaluer et renvoyer à tout à chacun, tout à chacune, la situation. Voilà, moi je tiens à saluer quand même que progressivement les élus, quels qu'ils soient, et surtout locaux et ruraux, commencent à comprendre, commencent à mesurer, commencent à se mobiliser, à entendre davantage ce qui se passe. On espère qu'ils ne vont pas juste entendre, mais venir à nos côtés pour voir justement essayer d'inverser la vapeur à un moment donné, si ce n'est pas après-demain, puisque le budget est voté bientôt, on espère à partir de janvier. Moi, je salue les initiatives transpartisanes qu'il y a eu en Mayenne. Voilà, tous les élus, de quelque bord qu'ils soient, ont mis leur écharpe tricolore et ont manifesté, ont fait une marche transpartisane pour dire qu'ils sont choqués par cette méthode, cette façon de faire de Mme Morançais.
Et vous voudriez que les Sartois, nos élus Sartois, répliquent cette façon d'agir ?
Je pense qu'il faut s'inspirer de bonnes volontés et des bonnes initiatives sur l'ensemble des territoires de la région Pays de la Loire. Évidemment, le territoire de la Mayenne ressemble à celui de la Sarthe. Nous sommes deux territoires ruraux, les plus ruraux au niveau de la région Pays de la Loire. Nous sommes cousins, on a l'habitude de dire ça. En tout cas, on est proches. Nos situations sont assez parallèles, en fait. Donc, oui, en tout cas, si on pouvait continuer à se rassembler toutes et tous largement, parce que nos élus locaux ne sont pas des ennemis, bien au contraire. C'est avec eux qu'on travaille tous les jours au quotidien. On sait ce à quoi ils sont confrontés. Donc, c'est ensemble qu'on pourra, à un moment donné, faire prendre conscience de ce qui se passe et puis d'essayer de faire entendre raison aux autres élus qui sont pour l'instant radicaux, trop radicaux, et empêchent une imagination, empêchent de se mettre autour de la table, empêchent de co-imaginer quelque chose qui devrait se mettre en œuvre.
Donc si j'ai bien compris, Gilles, le 20 décembre, ce n'est nullement l'arrêt d'un mouvement. Le mouvement est appelé à continuer. Et justement, j'en veux pour preuve ce que vous disiez là par rapport au Conseil économique, social et environnemental qui a fait des préconisations concernant le financement des associations notamment.
Oui, mais d'abord, sur ce que vous dites au début, sur le 19-20 décembre, arrêt par arrêt, en fait, nous, on a décidé de rien, les acteurs locaux, les personnes qui vont se retrouver au chômage, privées d'emploi, tout ce qui va s'arrêter, c'est quelque chose qui s'impose d'une manière extrêmement brutale, c'est-à-dire qu'il y a une violence, quand on parle de violence de la société, c'est inimaginable ce que ça veut dire, hein. Florence et toutes les personnes ici l'ont dit à leur manière, on peut être sidéré d'un processus, alors qu'en fait... Quand les acteurs se mettent autour d'une table, discutent, raisonnent, font preuve de raison, on nous dit « Ah, la France est un pays qui ne sait pas faire de coalition, qui ne sait pas parler ensemble, etc. » On a des exemples complètement inverses. Alors, on a un exemple que tout le monde connaît, c'est la conférence pour le climat où des personnes tirées au sort se réunissent pendant un temps suffisant, s'informent et font des propositions qui sont différentes de l'ordre du raisonnable pour le climat. Mais pour ce qui nous concerne, il y a une instance nationale, on dit souvent c'est la troisième chambre de l'État, c'est le comité environnemental social économique, qui a émis un avis sur un rapport, qu'on appelle un rapport. Hein. Et ce rapport, le titre du rapport, c'est « Renforcer le financement des associations et une urgence démocratique ». Donc ce rapport, qui met un an à être écrit après des tas de rencontres, concertations d'acteurs, des auditions, etc., il a cette particularité qu'il a été voté à l'unanimité du Conseil économique, social, environnemental. Et ce qui veut dire, quand on dit à l'unanimité, c'est-à-dire... que ce soit les élus politiques de tous bords, que ce soit les acteurs patronaux, le MEDEF, que ce soit les acteurs de l'entrepreneuriat social, les acteurs associatifs, les acteurs les syndicats, unanimement, et au moment où ce rapport a été voté, toute la salle s'est levée, il y a une standing ovation, tout le monde était d'accord. Et je vais juste vous dire trois des 19 recommandations votées à l'unanimité. Il y a une des revendications, et Mme Morançais, il faudrait qu'elle sorte un petit peu, qu'elle sa culture, quoi. Il faudrait un petit peu qu'elle sache de quoi elle parle, hein, quand elle parle de subventions. Ce travail-là, il fait qu'il y a une préconisation qui dit qu'il s'agit de consolider la définition de la subvention et en faire le mode de financement principal des associations. Et disons même qu'on pourrait aller jusqu'à... Il n'est pas choquant de subventionner à 100% une association, une activité associative, qu'elle soit culturelle ou autre, c'est à partir du moment où elle correspond à l'intérêt général d'un territoire. Une de ses autres préconisations, il y en a 19, elle dit, elle appelle à sécuriser la notion de pluriannualité des subventions en contraignant le respect des engagements lors de conventions pluriannuelles. Les mots sont clairs, il s'agit de sécuriser des conventions pluriannuelles. Quand on sait que le planning familial, par exemple, a signé en 2024 une convention pluriannuelle qui est éteinte de la simple décision de la chef de région, parce que je crois que c'est une chef de ce point de vue-là, voilà, il n'y a pas où elles sont, les concertations, les espaces, on peut discuter de cela et se mettre d'accord. Puis, troisième préconisation que j'ai prise, cet avis, il propose même de créer de nouveaux emplois aidés d'utilité sociale et citoyenne, pérennes et de qualité, appuyé sur les projets associatifs et accessibles à toutes les personnes. Voilà, c'est trois des 19 préconisations. La raison, ça veut dire quelque chose, la raison dans un pays. La raison, c'est quand on raisonne pour se mettre ensemble, réfléchir, produire de l'analyse et prendre des décisions politiques. L'irraison, c'est quand tout seul, on prend une décision dans son sens et que ces décisions, on sait, parce que Mme Morançais sait, que cette décision est destructrice pour l'emploi et destructrice pour les territoires locaux. C'est que en prenant cette décision, Mme Morançais et le petit groupe qui l'entoure prend une décision totalement politique, hein, qui est de mettre d'éteindre tous les espaces que nous on appelle l'espace public. Dans ça concerne tous ces endroits où les gens se rencontrent, parlent, discutent, échangent, commercent, mangent, font la fête. Et ces espaces-là, on nous dit, ben voilà, ils ne sont pas nécessaires à la vie. Et la région dit, c'est pas notre responsabilité de les soutenir. Et bien ça, c'est un choix politique. Et c'est un choix politique qui est très grave. Et je crois qu'on s'en rappellera.
Alors, Séverine Mésange, bénévole à la bibliothèque de Huchet-Pringer. Je constate qu'on est dans une société où, justement, comme l'a dit Gilles, c'est l'utile, le rentable qui est mis en avant. Alors que moi, dans le domaine de la culture, c'est plutôt l'épanouissement de l'être humain, sa curiosité intellectuelle. On fait appel à tous ces sens qui permettent de gagner en confiance en soi, et tout ce qui peut lui apporter de l'épanouissement, oui, justement. Là, je trouve dommageable, par exemple, par rapport à la culture, que la compétence ne soit pas obligatoire au niveau de l'État et que les collectivités puissent prendre des décisions aberrantes. Donc, et que nous, moi, pour ma part, je suis bénévole, j'aimerais être salariée, mais c'est vraiment... Il y a peu de postes, donc c'est vraiment une compétition hors norme, alors que il faudrait justement engager des gens dans la création d'emplois, que ce soit dans le domaine de la culture ou dans d'autres domaines, le social. Mais là, on va être empêché d'avoir des emplois par rapport à cette coupe budgétaire. Mais on se différencie de l'animal par rapport à notre culture, comme dirait l'autre. Je me rappelle plus l'auteur. Et ça, il faudrait le mettre en avant et surtout mettre en avant l'épanouissement de l'individu. C'est ce qui compte le plus pour ma part, en fait. Voilà.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose pour terminer ? Ou vous avez dit l'essentiel ? Alors, si vous avez dit l'essentiel, moi, je voudrais rajouter quelque chose. Justement, on parlait de Daniel Chevalier, conseiller départemental, président de la communauté de communes du Pays Sabolien. Il a fait une tribune vendredi 13 décembre dernier en ouverture du conseil communautaire de son territoire. Et la fin de sa tribune, je vous la lis. Si certains déplorent les coûts de la culture, ils pleureront demain devant les effets de l'inculture. Merci mesdames, merci messieurs, à vos réflexions.